Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.
Buenas noches, todo el mundo.
¡Que viva la música! ¡Latin Music Power! ¡Yeah!
¡Óyeme!
¡Música!
¡Música!
¡Contigo no!
Somos Caribe, paisa corroncho, qué maravilla. Somos Caribe, paisa corroncho, qué maravilla. Somos sopitas del sur y vallenato. Somos cachacos y somos sinuanos. Somos chocuanos y pa'l Tolima grande nos vamos. Somos llanero, Valle Caucano, guajiros de rica sal, cabrón guayo, guajiros de rica sal, cabrón guayo. Somos suba, somos ameño, somos suba. Negros de paraíso, indio con blanco, mestizo negro de paraíso. Huito, toco, guiarzario, quimbaya, cunas y chichas. Huito, toco, guiarzario, quimbaya, cunas y chichas. Español, mandingue, carabalí, lucumi, yoruba. Español, mandingue, carabalí, lucumi, yoruba. Bendicen osos, serán cuaruacos, Sierra Nevada. Agua bendita del Amazonas, verde esperanza. Son hermanitos grandes, con hermanitos pequeños. Con hermanitos grandes, con hermanitos pequeños. Como el salmón, buscando su origen, así vivo yo, tanta sueña vive.
Como el salmón, buscando su origen, así vivo yo, tanta sueña vive. Como el salmón, buscando su origen, así vivo yo, tanta sueña vive.
Defendiendo su cantar, fueron valientes guerreros.
Como el salmón, buscando su origen, así vivo yo, canta, sueña, vive.
Colombia mestiza canta, llora, pero también vive. Voces de niños lo piden, silencio en las armas ya.
Como el salmón, buscando su origen, así vivo yo, canta, sueña, vive.
Noche oscura pasará, el sol despuntará el alba, bandera que se levanta, celebra ritual de paz.
Como el salmón, buscando su origen, así vivo yo, sueña, vive.
Alentando a los demás, no te aflijas, ten confianza. Alegría vas a inspirar, construyamos lontananza.
Como el salmón, buscarnos orines, así vivo.
Bonjour, bonjour a tous les auditeurs de Radio Galère. Como chaque lundi, que viva la música. Una emisión consacré hoy a la Colombia, a especial SOS Colombia, où on va seguir de décortiquer avec des invités la situation actuelle que vit la Colombie en ce moment à cause d'une grève nationale et des événements qui ont suivi ce mouvement social qui devient quelque chose de très, très délicat. À cette occasion aujourd'hui, nous avons un plateau de Saint-Bidé que je vais présenter. D'abord, il y a toujours à mon côté Laura, une complice de cette émission, Laura Cadena, Carlos Ordóñez en estudio, también que hace parte de este equipo. Está como invitada hoy también una colombiana, un citoyen colombiana residente en France, Laura Morales, également Violeta Ocampo, aussi colombiana residente en France, y Santiago, no tengo tu nombre aquí, si estás, no. Journaliste colombien, se présenté. Je laisse la parole à Laura Morales pour commencer cette tour où on va essayer de décortiquer, d'expliquer aux Français et aux Colombiens, parce qu'on va avoir une liaison avec la Colombie bientôt par téléphone. Laura.
Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Laura Morales, comme on m'a présenté. Je suis juste une citoyenne colombienne qui habite en France depuis un an et demi à peu près. Donc, j'ai eu la chance d'être ici depuis que la pandémie a commencé, et même un petit peu avant. Et aussi à partir du moment où le contexte de ce qui arrive aujourd'hui commence. Je suis arrivée en novembre 2019. Même mois dans lequel les premières manifestations de la guérilla à l'époque commencent en Colombie et qui devient un peu l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui, malheureusement, à trois fois plus fort de ce qu'on vivait en novembre 2019. Donc à cette époque-là, le gouvernement était sorti avec une réforme fiscale assez injuste, comme on les connaît déjà très bien en Colombie, on est très bon pour faire des réformes de ce type. Et le peuple s'était levé à cette époque-là, ils sont sortis dans la rue, tous les citoyens, et c'était un mouvement majoritairement citoyen. Ça, il faut toujours le répéter, ça a été accompagné par plusieurs secteurs étudiantes, tous les secteurs sociaux du pays. Et à l'époque, bon, on a manifesté, si je me rappelle bien, à peu près pendant une semaine et demie. Bien sûr, à l'époque, il y a eu beaucoup de répression policière, un peu comme on le voit aujourd'hui, mais un avant-pandémie qui était assez fort, mais qui n'était pas de la force qu'on voit aujourd'hui. Après ça, la pandémie a explosé et ça nous a arrêtés. Ça a arrêté toute la planète et toutes les revendications sociales et politiques qui se passaient non seulement en Colombie, mais un peu partout dans la planète, s'arrêtent. C'est pas différent pour la Colombie. Donc nous, on s'arrête, tout s'arrête. Et ensuite, on revient une année après, encore avec une pandémie qui est active. On est encore masqués aujourd'hui, on connaît tout ça. On arrive à un gouvernement qui réessaye renvoyer cette réforme version 2, encore plus injuste que ce qu'on avait avant, une réforme fiscale encore. Et il fait ça quelques jours après l'assassinat d'un de nos nombreux leaders sociaux qui vient se faire tuer depuis probablement la signature des accords de paix. On nous tue depuis un bon moment. Et depuis qu'on a signé les accords de paix, on a un gouvernement qui n'a pas voulu respecter cet accord et qui n'a pas voulu vraiment rentrer dans le respect et dans l'utilisation de tout ce qu'on avait écrit dans cet accord pour commencer à essayer de réparer les victimes et de rentrer dans un processus de vraie paix dans un pays qui ne l'a jamais connu. En tout cas, pas pour moi. Moi, je viens d'une génération qui n'a jamais vu un pays en paix. Et donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là, en train de se mobiliser malgré le mort, malgré la violence, malgré la mort, malgré le non-respect de la paix qu'on veut tous. Et donc, le contexte, c'est un peu ça. Donc, il y a une leader qui a été assassinée il y a à peu près 2 semaines, le 20 avril, leader sociale. Ensuite, on annonce une nouvelle réforme, les gens sont super fatigués, le chômage, bien sûr, comme dans toute la planète, a super monté parce que tout le monde est enfermé chez eux à cause de la pandémie. On a un gouvernement qui n'aide pas avec avec l'argent, comme on peut le vivre dans des autres pays mieux accommodés, si on veut. Donc le Jean sort pour dire non à cette nouvelle réforme. Encore une fois, un mouvement citoyen majoritairement très grand qui part un peu partout. Tous les gens sont fatigués. Je pense qu'ici, on connaît aussi. C'est quoi cette fatigue de la pandémie, de ne plus être enfermé, de ne plus être libre. Et donc, on le fait en Colombie en croyant qu'on a cette liberté-là, qu'on peut voir dans les autres pays. On sort, on se manifeste le 28 avril de 2021. Les gens sortent dans la rue pour manifester, pour s'opposer à cette réforme. Trois jours après, des très bonnes manifestations, beaucoup de gens dans la rue, des manifestations culturelles, des étudiants, des citoyens qui sortent. J'ose dire, on est fatigué, on va pas bien, la réforme est pas bonne, on l'accepte pas. On se trouve avec une répression trois fois plus forte que ce qu'on avait eu en novembre 2019. On commence à avoir des morts à tous les jours. Aujourd'hui, on en compte, si je ne me trompe pas, à peu près 47 morts. Si c'est les dernières informations que j'ai vues dans le média, comme on essaye de faire le décompte. Chose très difficile parce que le média, bon, ils informent à moitié, ou ils informent pas, ou ils informent ce qui convient, parce que bon, le média traditionnel, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui des citoyens qui ne font pas normalement le journalisme. On essaye d'informer et de s'informer et de trouver les bonnes informations pour le partager avec vous. Parce qu'on commence à censurer aussi chez nous, on commence à couper l'internet, on commence à nous enlever le pouvoir qu'on a à travers les médias sociaux. Et à enlever la possibilité de partager avec les communautés internationales ce qui se passe en Colombie. Bien sûr, ce n'est pas unique en Colombie. On sait qu'il y a des choses qui se passent, très, très mauvaises choses un peu partout. Mais c'est justement ça, la gravité de la chose, c'est que c'est une tendance internationale très, très mal faite, très, très terrible. En tout cas, je reviens au contexte en Colombie. Donc, 47 morts à l'heure d'aujourd'hui. À un moment donné, la semaine passée, il y a un mouvement indigène très important chez nous qui a toujours lidéré ou guidé le mouvement social et citoyen. On l'appelle la Minga. Ils viennent d'une région qu'on appelle Cauca, en Colombie. Donc eux, ils s'est rejoints à la manifestation, à la mobilisation qui se passe dans la ville de Cali, dans le ouest du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi ils se joignent à Cali? Parce que c'est, de façon territoriale, c'est la place la plus proche de leur territoire, et c'est aussi, ça fait partie du territoire où ils ont toujours revendiqué leurs droits. Donc ils viennent se joindre pour essayer de protéger tous les citoyens qui se font attaquer de façon directe par la police, par le militaire, et par ce qu'on appelle le SMAD, qui est le regroupement de policiers spécialisés en contrôle des meutes, si on veut. Sauf que c'est des gens qui ne sont pas censés être armés et qui, normalement, c'est l'équivalent de le CRA en France, en fait, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Donc, eux, ils sortent toujours armés avec du gaz, de l'eau. Ça, c'est des choses que sont utilisées même ici. On le connaît très bien comment ça fonctionne. Sauf que chez nous, ils commencent à être accompagnés par la police régulière, qui est très bien armé avec des vraies balles, et qui commence à tirer sur les civils, sur les citoyens qui sont dans la rue. Et donc, nous, on commence à s'alerter un peu partout. Les gens commencent à partager, parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est un peu ça. On commence à nous tuer. C'est comme ça que ça commence.
Bon, après cette intervention très claire de Laura Morales, est-ce qu'il y a une petite réaction rapide de Violette ou de Santiago avant de faire une pause musicale?
Alors peut-être pour complémenter ce qui a été dit, juste dire que c'est sûr que cette proposition de réforme fiscale a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Les gens étaient, depuis la pandémie, enfermés, etc. La majorité de travailleurs sont des travailleurs informels, donc ils n'avaient pas de revenus. Et là, ce qu'on voit, ce qui est particulier, c'est que c'est une révolte sociale qui suit pas un parti politique ou une orientation idéologique. C'est vraiment les gens qui n'en peuvent plus et qui se sont révoltés. Donc on voit des femmes, on voit des très très jeunes de 11 ans, 14 ans, des jeunes qui n'en peuvent plus de la situation parce que tout simplement les gens ont faim. Voilà ce que je voulais rajouter.
Voilà. Alors, Santiago, tu veux quelque chose à rajouter ?
Moi, de mon côté, je pense que c'est surtout, comme dit Violetta, c'était, cette réforme, c'était de trop. C'est vraiment la réforme fiscale, elle n'a pas tenu en compte tout ce qu'est la réalité de notre pays. Une réalité que ce n'est pas de maintenant, ça fait des années. Qu'on a les mêmes problèmes. Je pense aussi que toutes les raisons pour lesquelles cette manifestation elle est encore valable aujourd'hui, même s'ils ont retiré cette réforme fiscale, c'est simplement aussi les raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous, on est parti de la Colombie. Ça fait 4 ans et demi que je suis parti et la situation, elle devient de pire en pire.
D'accord. Bon, avant de continuer, on va faire une pause musicale. Laura, tu nous proposes quoi?
Nos vamos precisamente con una canción que es el himno de la Guardia Indígena. Una dedicatoria a todos los compas que están, a todo el territorio, a todos los indígenas que están luchando y están en la resistencia por nuestro país.
Thank you. fuerza, fuerza. Guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra. Astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz. La voz de la conciencia representada con fe, resistencia y con un gran ideal de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral.
Viva la música, si usa arrivé en cours de mission, je vous signale, je vous précise que nous sommes en ce moment avec un plateau de citoyens colombiens pour décortiquer, pour expliquer, pour faire les points sur la situation actuelle en Colombie avec Santiago Ruiz Forero, journaliste, Laura Morales, Violeta Campo y Carlos Ordóñez de Colombia, aussi residentes en France, y Laura Cadena, más complice depuis quelques mois sur cette émission. Je laisse la parole a Laura.
Morales. Laura Morales.
Morales.
Merci. Alors, en continuant avec le contexte, peut-être on va commencer à approfondir un petit peu sur la réforme fiscale qu'on mentionnait, qui était le point d'origine de la mobilisation actuelle et celle de 2019 aussi. Donc, on va expliquer pourquoi c'était aussi injuste.
Alors, cette réforme, elle arrive en plein contexte de pandémie. On disait auparavant que c'était un peu la goutte qui avait fait déborder le vase. Et en fait, cette réforme fiscale consiste à aujourd'hui taxer les classes moyennes basses qui auparavant par manque de revenus n'étaient pas taxées. Donc ceux qui, dans un contexte de pandémie où la pauvreté a augmenté considérablement, est complètement insupportable pour les gens, et ça se comprend très bien, mais aussi il y a l'idée de taxer les produits de base, donc le café, les sucres, des produits des premières nécessités qui n'étaient pas taxés auparavant. Donc voilà, ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là, comme on a dit auparavant, la réforme a été retirée depuis les mobilisations, mais les mobilisations continuent parce qu'en Colombie, il y a depuis des décennies un état d'inéquité les gens ils n'en peuvent plus. Mais il y a aussi une réforme de santé à venir qui a été annoncée et qui prévoit la privatisation du système de santé. Donc ça accroîtra encore une fois l'inégalité dans le pays. Je laisse la parole à Laura.
Oui, je voulais juste ajouter qu'on n'oublie pas le contexte mondial qui nous touche tous. On est en pandémie. Et donc c'est vraiment dans le cœur d'une pandémie dans lequel les produits de première nécessité et la santé, c'est les choses les plus prisées de ce qu'on a besoin d'avoir en ces moments. Et justement, dans ces moments, on a un gouvernement qui décide de faire une réforme pour nous enlever tout ça. Justement dans un moment où on a encore besoin de tout le contraire, d'avoir un système qui est déjà privatisé par ailleurs. Hein. Ça a déjà été privatisé dans le passé. Là, ce qu'ils veulent faire avec la nouvelle réforme de la santé, c'est le privatiser encore plus pour la petite partie qu'ils n'ont pas réussi à faire il y a longtemps avec l'ACN qui existe depuis un bon moment. Et donc, c'est juste une continuation de ça, un trois fois plus fort, comme la réforme fiscale, c'est une continuation des problèmes économiques qu'on a déjà depuis longtemps aussi. Mais donc il ne faut pas oublier qu'on est le troisième pays après l'Inde et le Brésil avec le plus de contaminations et probablement des morts, peut-être pas, mais des contaminations, oui. En ces moments, on a un vrai problème de santé et d'attention à la pandémie qui a été super mal gérée. On le voit avec des réformes comme ça.
Bon. Vraiment, ça qui nous dégoûte aussi, c'est l'utilisation de ces ressources aussi. Qu'est-ce qu'il propose faire de ces ressources quand les besoins de la population colombienne, ce n'est pas tout à fait la guerre? On va où si on pense utiliser tout l'argent qu'ils vont nous demander à la peuple pour acheter plus d'implémentation de guerre quand les besoins de première nécessité, c'est notre société. Dans le peuple colombien, il y a des morceaux de terre que le gouvernement n'arrive pas pour supplir la nécessité de la population. Mais quand il a besoin d'extraire quelque chose, il est là. Alors,
oui, on voit bien qu'il y a un gros budget qui est orienté, qui est destiné à l'achat de matériel militaire. Ça, c'est pas nouveau, mais là, c'est quand même flagrant avec cette nouvelle réforme.
Pardonnez-moi aussi, je voudrais un peu ajouter quelque chose, si c'est que nous, en Colombie, on est habitué à la corruption. C'est pas... Les soucis aussi, ce n'est pas cette réforme fiscale, c'est vraiment... les problèmes, c'est vraiment où ils vont tous ces ressources, où va cet argent.
Un petit souci avec ton micro, Santiago, on écoute très faiblement ce que tu racontes. Bon, on va essayer de remédier ça, peut-être échanger un micro, mais dans 3 minutes, nous avons les premières réactions en direct de Colombie. Alors, on va faire une petite pause musicale avant ça.
Todo estaba oscuro y misterioso. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. Cuando todo estaba tranquilo, una enorme bola roja que se reflejaba en el mar sale del infinito. Después de que el sol y el mar pararon de jugar, el sol descubrió que el mar era muy valioso. Entonces, el sol le robó un poco de agua al mar para regalárselo a su alrededor.
Estamos aquí en esta mesa de acompañamiento con nuestro programa SOS Colombia. Tenemos hoy como invitado también a compas que están en la resistencia, que están en los procesos, que están acompañando a la gente, que están acompañando a los territorios. Es muy importante escuchar la voz de los que están caminando en este momento de la lucha. Cuéntanos también, así, o sea, Ernesto, como el día de hoy, esta mesa se construye también desde un encuentro que se realizó el sábado aquí en Marseille, y eso también juntó muchísimas voces, y estamos haciendo también como un llamado, ¿no?, como a otros países y a otros colombianos, incluso personas que tengan la empatía con este proceso, a que cuenten esta historia y que cuenten la verdad, que lamentablemente no la están contando en nuestros medios.
Si cette situation a eu un écho mondial, et on était très étonnés de que les moyens de communication, les médias en France ne se prononcent pas autour de la situation. Et alors, à Paris, à Toulouse, à Marseille, et dans beaucoup de villes en France, on a organisé par divers moyens, il n'y a aucun intérêt d'un parti politique, c'était vraiment des citoyens qui ont décidé de dire on va expliquer, nous aussi on a exploité, non, on a réagi. Bon, Laura, tu es en ligne maintenant avec la Colombie.
Sí, en este momento estamos con el compa desde Cali, Colombia, para que nos cuente también un poco sobre cómo ha sido esta situación de voz de la gente, porque creo que no hay videos, no hay imágenes, no hay publicaciones que puedan contar la realidad. Bienvenido, compañero Oscar, estamos aquí desde Marsella, Francia, en Radio Galer. La idea es que puedas hablar en español y nuestra compañera Laura Morales te va a ir haciendo una traducción para también los que no hablan español. Bienvenida.
Hola, buenos días a todos, a todas las personas que están escuchando esta radio desde Cali. Mi nombre es Oscar. Trabajo en comunicación alternativa y con procesos comunitarios casi en toda la ciudad, pues, tanto de jóvenes como de mujeres. Y en este momento Cali está viviendo una situación muy compleja porque el ejercicio de la movilización ha sido tan grande, tan fuerte, se convirtió en un referente nacional y todas las ciudades empezaron a movilizar siguiendo el ejemplo de Cali, y hoy en día Cali está sitiada por una militarización muy fuerte y sobre todo por una paramilitarización que dio muchas luces ayer. Hay gente de mucho poder económico que está muy bien armada y está pretendiendo, pues, atacar a la gente que se está movilizando.
A ver,
esto es muy delicado.
Bueno, para que la compañera pueda hacer la traducción y...
Oui, ok, je vais essayer de suivre ce que tu dis. Bon, si tu peux me rappeler ton nom, parce que ça, c'est la seule chose que je n'ai pas noté.
Oscar.
Oscar nous parle de Cali. Cali, c'est la ville. Non, juste un instant.
Non, compa. Ya te están haciendo. Oscar, compa. Espérate que están haciendo la traducción y ya te aviso.
Bueno.
Ok, deuxième essai. Alors, Oscar nous parle de Cali. Lui, il fait partie il fait la communication alternative et fait partie des processus communautaires à la ville de Cali, qui se trouve à être aujourd'hui le pissentre de la répression policière et militaire, et même, on ne sait pas encore, des forces un peu obscures. Il nous dit que la mobilisation était super grande depuis le début à Cali et qu'aujourd'hui la ville est occupée et qu'il y a des personnes avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent qui se sont armées et qui sont sorties dans la rue, qui commencent à faire partie de ceux qui attaquent le manifestant en ces moments. Oscar. Tienes la palabra, Oscar.
Sí, bueno, entonces, eso es el presente, eso es lo que estamos viviendo. Lo vivimos ayer, una noche muy compleja para llegar a hoy. Hoy no sabemos cómo vamos a reaccionar desde la comunicación y desde los contactos que tenemos en los diferentes lugares. Les grafico la situación. Cali es una ciudad, digamos, como de 20 kilómetros de largo, y en esos 20 kilómetros de largo hay 20 puntos de bloqueo, donde las personas, los vecinos, las vecinas se han reunido a bloquear la calle, la carretera, se han bloqueado las salidas a la ciudad y ahí están los puntos de conversación y de protesta. La ciudad quedó aislada primero por los bloqueos. Hasta el viernes pasado se presentó un desabastecimiento de alimentos y de gasolina. Se hizo un acuerdo humanitario con los bloqueos, sobre todo de entradas a la ciudad, para que se dejaran pasar alimentos y y todo lo que tiene que ver con insumos para la salud y los combustibles, y se logró pues que la ciudad otra vez empezara a reabastecerse de alimentos. Esto es una acción humanitaria, un diálogo, pero el gobierno se lo adjudica a su poderío militar, entonces también ahí se desconoce la capacidad de negociación que tiene la población en este momento.
Alors, depuis la nuit d'hier à Cali, les choses se sont ont pris un tournant très difficile et beaucoup plus difficile de ce qu'ils vivaient déjà depuis des jours, depuis que la mobilisation a commencé. Pour expliquer, Oscar, il dit que Cali, c'est une ville qui a une largeur de 20 km. Et en ce moment, il compte avec 20 points de blocage autour de ces 20 km, autour de la ville, pour éviter l'entrée et la sortie de personnes et des gens de la ville. Et donc, après quelques jours de blocage dans ces 20 points qui avaient été établis un peu partout dans la ville s'est retrouvée isolée. Ils ont commencé à avoir des pénuries de nourriture, des pénuries de combustible aussi pour la mobilité à l'intérieur de la ville, ce qui a amené à faire des accords humanitaires entre le gouvernement local et le manifestant qui était en train de bloquer pour laisser justement rentrer tout ce qui était la nourriture et le combustible. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Oscar.
Bueno, entonces ya vamos a completar 2 semanas de paro en Colombia. La situación es muy compleja en Cali, pero hay unas condiciones también para propiciar el diálogo y las personas de los puntos de concentración. Algunos puntos son más grandes que otros, tienen más historial de movilización que otros. La mayoría, por no decir todos, están liderados por gente joven, hasta gente muy joven, que quiere participar, que está descontenta, que no sabe cómo hacerlo y necesita como mucho apoyo también para poder aterrizar sus ideas. Entonces, lo que está pasando aquí es un estallido social que nadie se lo esperaba, pero que todos sabíamos que en algún momento iba a pasar. Laura conoce muy bien las problemáticas de la juventud caleña, sobre todo en el oriente, y la situación de exclusión, la poca educación, la más de empleo, la mala de nutrición, en fin, son cosas que siempre han estado ahí históricamente, pero hoy se sacan a la mesa con el pretexto de la reforma tributaria que pretendía agravar mucho más esta situación, pero sigue el paro aquí. Ya la reforma se retiró, renunció el ministro de Hacienda, pero lo que está pidiendo la gente joven son soluciones de fondo, transformaciones locales sobre todo, y esos espacios es necesario articularlos y habilitarlos pronto, porque de no ser así puede haber una masacre en Cali, porque las fuerzas paramilitares y el mismo Estado están dispuestas a recuperar la ciudad a sangre y fuego.
Listo, vamos con la traducción de la compañera.
Alors, Oscar nous dit, ça fait 2 semaines qu'on est en grève nationale, que ça se passe un peu partout, comme on disait avant. Il dit aussi que le point de blocage sont gérés par des jeunes qui sont très préoccupés par la situation et que les conditions d'ouverture au dialogue sont là, que tout ce qu'on cherche aussi, c'est un peu aider ces personnes qui sont dans les espaces de blocage et qui le font de façon très organique et très connectée avec leur propre précarité et leurs propres problèmes du jour à jour. C'est des jeunes qui sont là et qui sont là pas pour faire la violence, mais qui sont là pour justement chercher des vraies solutions. On nous raconte aussi que la réforme fiscale qui avait initié tout ça a été retirée. Le gouvernement a enlevé l'idée de la sortir. le ministre de d'économie, ou je sais pas comment l'appeler, mais le ministre qui était en charge de ça, il a démissionné, ça fait deux jours aussi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si la réforme est retirée, même si le ministre est plus là, les solutions ne sont pas visibles pour la population. On n'a pas une vraie solution, on n'a pas une vraie réponse. La réforme, des réformes qui se retirent, on la connaît. On a déjà eu des réformes qui sont parties. On dit, bon, finalement, on ne la fait pas. Et quelques mois après, on la fait passer d'une autre façon, ou on fait une nouvelle réforme, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que les jeunes ne croient plus à ça. Et c'est pour ça que la mobilisation, elle continue. Et ce qu'Oscar dit à la fin, c'est aussi que c'est très important de rentrer dans le dialogue le plus rapidement possible. Parce que la ville de Cali est militarisée en ce moment. Il y a beaucoup de militaires qui ont été appelés à aller couvrir le territoire, à aller essayer d'arrêter le blocage avec n'importe quel moyen. Et non seulement les militaires, mais Oscar nous parle aussi des paramilitaires qui sont en train d'appuyer cette réponse du gouvernement. On a aussi déjà vu dans le média traditionnel que, et ça c'est pas Oscar qui l'a dit, c'est moi qui rajoute ça, mais on a déjà vu aussi que le président de la République hier, il a envoyé un message aux dirigeants de forces militaires en disant qu'il faut reprendre la ville coûte qui coûte. Il ne s'est pas présenté à Cali. On lui convoquait pour qu'il essaye justement d'aller parler avec ces jeunes qui sont en train de bloquer et pour qu'il ait commencé un dialogue, un vrai dialogue avec les vrais manifestants qui sont sur le terrain. Il a dit qu'il ne voulait pas aller pour ne pas bloquer les actions militaires et policiers, qu'il laissait ces personnes-là gérer la crise. Alors qu'on sait très bien que la violence, ça ne se gère pas avec plus de violence, ça ne fonctionne pas. On le connaît en tant que Colombien, que ça n'arrête jamais quand on essaie de le faire. Alors c'est ça l'appel de Oscar, c'est il faut rentrer dans les dialogues et il faut rapidement, parce que la massacre que ça peut générer peut commencer très vite, on le sait, et c'est depuis hier. Hier, on a eu des personnes armées, des civils qui sont sortis pour tirer aux manifestants et aux membres de la MINGA qui étaient autour de certains points de blocage. Et on a des informations des blessés et de probablement des morts qui ont déjà changé. Et donc, bon, on ne sait pas par rapport aux morts, mais on sait que ça va être militarisé et que la réponse est vraiment plutôt militaire.
Compañero Oscar, que nos cuentes es un poco sobre cómo está el tema de la comunicación. Sabemos que pues hay muchos de que tienen mucho las cuentas bloqueadas, de que no pueden, no hay internet. ¿Cómo que nos puedas ilustrar más sobre esto?
Pues hay una gran censura de contenidos en redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook. Muchos comunicadores, incluso artistas, decidieron tomar la cámara y hacer en vivos, muchos en vivos. Fue muy triste ver morir a un joven caleño en uno de esos lives de Instagram con unos contenidos muy fuertes. Están contando, mostrando la crueldad pues, de la violencia durante los bloqueos o los hostigamientos que hay ahora. Entonces están bloqueando mucho ese tipo de redes. Pero también hay unas desconexiones, es decir, que se ha presentado en Chile sobre todo, que se da la señal de internet, es como si hubiera una anulación de las señales, no hay forma de comunicarse hacia afuera, y se va la energía también. Hay como una administración de la ciudad con la policía para que esto pase, eso no pasaría porque sí, y a la hora de sustentar por qué ha pasado, dicen que no, que todo está en orden, los proveedores de internet están en orden. Entonces, frente a eso estamos buscando alternativas, como la radio, como la comunicación análoga, poder contar espacios como este para divulgar, así sean resúmenes de lo que está pasando, y pues agradecer que están ahí ustedes, para si nos censuran en algún lugar, ustedes sean nuestra voz también.
Parece, muchas gracias. Ahorita cerramos con la traducción de Lau. Gracias por acompañar y ser la voz del territorio, contando un poco lo que está pasando. Sé que es muy poco tiempo para poder ilustrar lo que ha pasado en tantos días. Yo que he acompañado de cerca también el proceso y conozco de primera mano los videos, todo lo que estás contando, es un tema muy fuerte. Solo desde aquí, mucha fuerza, coraje. Y seguimos en la resistencia desde donde estemos. Gracias, compa.
Gracias, un abrazo.
Laura, ¿nos puede contar un poquito sobre lo último con lo que cerró el compañero?
Oui, bien sûr. Alors, la question de Laura à Oscar, la dernière question, c'était comment ça fonctionne en ces moments, tout ce qui est côté communication, comment le gens arrive à communiquer ou à faire passer l'information qu'on peut pas voir dans les médias traditionnels. Oscar nous répondait que ce qui se passe, c'est que le citoyen sort dans la rue, ils essayent de faire des transmissions un live de tout ce qui se passe à travers leurs propres réseaux sociaux. Ils essayent de faire connaître ce qui se passe via leurs réseaux parce que c'est un peu la seule façon de montrer ce qui se passe dans le moment présent. Donc nous, on l'a vu dans le média, dans nos médias, et c'est pour ça qu'aussi à l'international, on est tout le temps un peu en train de chercher nos amis, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui peuvent aller dans les manifestations et nous montrer en temps réel ce qui se passe. Ce qui est arrivé, selon ce que nous raconte Oscar, c'est que vu que c'est les citoyens qui sont en train de transmettre des choses et qui sont munis juste de leur téléphone et leur connexion d'Internet personnel, ils commencent à faire de la censure des médias personnels. Donc il y a certains quartiers à Cali, justement, ils parlaient d'un quartier qui s'appelle Siloé, qui est un des épicentres de la répression policière, où ils ont commencé à avoir de façon consistante et très souvent pendant la semaine et depuis que la mobilisation a commencé, des coupures d'Internet et d'électricité. Et donc on se demande pourquoi, en ces moments précis où c'est vraiment la façon de partager ce qui se passe, eux ils se trouvent à avoir des coupures d'électricité et d'Internet. On s'est dit c'est vraiment la censure. Apparemment il y a des gens qui essayent de communiquer avec le gouvernement ou avec le fournisseur de services pour voir pourquoi ça arrive. Eux ils disent tout le temps que tout est normal, qu'il n'y a pas vraisemblablement dans leur système, il n'y a pas de problème de communication, il n'y a pas de problème de coupure, ils ne comprennent pas pourquoi c'est coupé. Alors ça nous semble, nous, très, très difficile à comprendre parce que le gouvernement il dit que tout le monde est libre et tout ça, mais finalement on ne l'est pas, on ne peut pas les faire. Donc Oscar, il nous disait qu'il était très reconnaissant de ce qu'on fait aujourd'hui, qu'il commence à chercher des médias alternatifs comme la radio, comme les radios communautaires ou le radio web, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et il dit que c'est très important d'avoir des espaces comme celui-ci qu'on a aujourd'hui pour essayer de répliquer le message qu'eux, ils n'arrivent plus à passer même à travers leurs réseaux sociaux qui étaient leur façon de faire, qui continuent à être leur façon de communiquer. Et donc, ouais.
Des réactions.
Oui, je pense que le gouvernement en Colombie n'a pas compris que cette réaction vive et violente contre les manifestants, ça fait uniquement que les peuples continuent à se manifester et que aussi la réaction du peuple, c'est des manifestations encore plus violentes. C'est ce qu'ils ont vécu nos concitoyennes en Cali, c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment quelque chose qui est... Tranquille, un concitoyen qui vit à l'extérieur et qui voit les images qui parlait Oscar, des gens qui sont morts en live en réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas comprendre et que je pense qu'à tous nous, ça nous rend triste de voir des nouvelles comme ça et de voir aussi que les médias en Colombie ne participent pas à montrer vraiment c'est ce qui est en train de passer en Colombie.
Je voulais juste faire un petit résumé d'un report de droits humains international datant de 8 mai. Donc, avant-hier, donc le 8 mai, il y avait déjà 1023 détenus dans tous les pays, 980 disparus, 43 homicides et 1330 blessés en tout. Dont 1000, parmi ces blessés, 1040 civils et 290 policiers. Bien sûr, depuis le 8 mai, la situation elle s'est envenimée avec les attaques d'hier à la communauté, à la Minga, à Cali. Donc les chiffres ne sont pas actualisés. Donc on attend de voir quels sont les nouveaux chiffres. Mais c'est scandaleux. Et là, le constat à ce jour, c'est qu'au niveau de la communauté internationale, il n'y a pas une posture claire. La France ne s'est pas prononcée. Les États-Unis ne se sont pas prononcés. C'est-à-dire, l'information, elle circule. Parce qu'on voit qu'il y a des manifestations en Allemagne, en France, etc., pour défendre les manifestations colombiennes, mais il n'y a aucune sanction sur les gouvernements. Il n'y a aucune sanction claire. Il faut vraiment qu'au niveau international, la voix s'élève et des sanctions claires soient faites sur les gouvernements colombiens. Il y a eu peut-être une info il y a quelques jours comme quoi il y a quelques membres du Congrès aux États-Unis qui étaient en train de mettre pression sur les gouvernements américains pour qu'ils arrêtent de vendre des armes à la Colombie. Mais il faut savoir que la Colombie est un pays militarisé, fortement militarisé. Il y a 7 bases militaires états-uniennes depuis des années en Colombie. Donc c'est très complexe, les relations entre la Colombie et les États-Unis, parce qu'on a toujours eu l'appui militaire des États-Unis. Je sais aussi que la France est un partenaire militaire de la Colombie. Donc c'est en tout cas, la posture internationale n'est pas claire et on fait vraiment cet appel par tous les moyens. Il faut une réponse claire de la communauté internationale pour qu'il y ait des sanctions sur les gouvernements. Les morts ne peuvent plus s'empiler comme ça. C'est gravissime.
Eso es Colombie, es spécial. Nous, on va faire une petite pause musicale et on revient.
Que están soplando mejores días.
hommage à la ville de Cali, c'est à contre-temps parce que c'est, les temps, c'est pas si beau, si joli que ce que nous raconte Hugo Candelario González et le groupe Bahia, mais notre façon de lutter, de supporter, c'est aussi la musique, la joie de vivre, c'est un peu notre ansiolytique. Bon, on va continuer là où là, il y a des petits problèmes d'enregistrement, on verra après sur le podcast, mais les directs, ça va. Et tu as un témoignage de quelqu'un qui était samedi à Marseille, qui nous va expliquer cette collectage de sons que tu as pu recueillir samedi dernier lors de cette manifestation de soutien.
Je voulais juste dire aux Français qui sont là, on est là pour vous montrer la réalité de la Colombie. On a ras-le-bol de l'inégalité sociale. Les Colombiens se sont réveillés et on doit montrer ça au monde. On est en train d'être censurés et on a besoin de vous, de toutes les personnes en dehors de la Colombie. C'est pour ça qu'on est là et on vous invite à faire les hashtags SOS Colombie. Ça nous donne de la visibilité et comme ça, on pourra peut-être mettre la pression sur les droits de l'homme pour qu'il vienne intervenir en Colombie. On est en train de nous tuer. En 5 jours de manifestation, on a eu 37 décès, 37 assassinats par les forces de l'ordre et on a plus de 400 disparus. Je suis vraiment désolée de dire ça, mais disparus, c'est vraiment dire décès. Ils vont être assassinés. Merci beaucoup.
Merci.
Très humblement, il y a un an, un peu plus d'un an, un an et demi, dans ce même endroit, on était ici pour le même problème. C'était un autre peuple latino-américain, c'était le peuple chilien qui était là. On a passé 2 mois. Et aujourd'hui, un an plus tard, la même situation, les mêmes, parce que ce n'est pas si différent de ce qui se passe au Chili, la même situation se répète en Colombie. Beaucoup plus grave parce qu'il y a un grave problème de droits de l'homme qu'il y a au Chili aussi, mais en Colombie, ça dépasse. C'est juste pour nous apporter la solidarité de toute la communauté chilienne, je crois, à les représenter ici aujourd'hui, de toutes les personnes qui étaient là l'année dernière.
Oui, bon, écoutez, on va... Il est bientôt 4 heures de l'après-midi, il nous reste une demi-heure. Des réactions de Carlos, Santiago, Violeta. Je laisse la parole à Laura.
Merci. Alors, nous, on voulait rentrer à parler, ou continuer justement, à parler de deux sujets qui viennent, qui font partie du centre de ce qui se passe en ces moments. Un, c'est la Minga. Et tout ce qui se passe avec la Minga, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très grave et qui se passe en ces moments, qui a commencé il y a quelques jours, mais qui se développe assez rapidement et qui... Ouais, ok. Et donc...
Expliquons, Laura, oui. Au français, c'est quoi une Minga?
Voilà, donc c'est ça qu'on voulait faire. On voulait vous contextualiser, c'est quoi la Minga? Donc pour ça, j'ai... mon copain qui va...
Bon, à la base, la Minga, ou la Minga, comme on appelle dans différents espaces de l'Amérique latine, c'est le rassemblement de la population pour parler des différentes problématiques du peuple en général et chercher des solutions viables.
Oui, c'est un
ambulatoire,
qui marche.
Oui, à la base, c'est un rassemblement et c'est pas spécifique d'un territoire précis. La Minga, c'est plus grand que ça. C'est le rassemblement de le peuple. C'est ça, à la base, c'est le pensement indien de l'Amérique. Ce qui a été... c'est une façon de partager la vie, les problématiques de la communauté, et c'est à la base de tous les peuples indigènes, de l'Amérique. C'est pas adjudiqué, si c'est pour dire pareil en français, à un peuple précis. C'est tous les mouvements indiens que a trouvé dans cet conseil ou cet espace qu'ils ont créé pour parler et pour donner une solution à toutes les problématiques d'une communauté ou de toute la communauté américaine. Quand on parle d'américain, il faut faire l'acclaration que c'est tout l'Amérique.
Donc c'est un rassemblement des personnes pour parler, discuter et prendre des décisions par rapport à des problématiques sociales ou culturelles qu'ils traversent.
Oui, et en même temps de faire des actions qui permettent de développer ces idées. Parce que la problématique à ce moment, c'est que même le gouvernement, il ne peut pas parler, ou il dit qu'il a l'intention de parler, comme on vient de dire le président de Colombie, ça fait un jour. Mais on est clair aussi que depuis qu'il est à la tête du gouvernement, il fait que des mensonges. Si on voit tous les rapports de ce qui s'est passé quand il a fait tous ces procès pour prendre la tête du gouvernement, il a parlé, il a donné un discours avec quelques idées qu'on ne voit pas. À ce moment, il fait que tout le contraire.
On ne va pas déborder, on laisse finir Laura parce que tout de suite on part à Medellín où il y a encore quelqu'un qui va nous expliquer la situation là-bas. Alors Laura, que tu étais en train de dire.
Oui, alors une des définitions possibles de la Minga, de qu'est-ce que ça veut dire comme rassemblement indigène ou indien de Colombie, c'est une tradition précolombine, ça veut dire avant la colonisation, on va dire, des travaux communautaires ou collectifs volontaires avec des fins d'utilité sociale ou caractère de réciprocité vers la société, vers la communauté. Donc ça, c'est une des définitions de ce qu'est la Minga. Elle fait, elle est originaire des peuples indigènes qui sont encore vivants aujourd'hui chez nous.
Oui, alors on est en direct avec Medellín, Laura.
Buenos días allá en Colombia. Damián, ¿me escuchas?
Sí, Laura, ¿cómo estás?
Bien, dame un segundo que no sé por qué no está agarrando la llamada. A ver. Hola. Listo, te escucho. Damián, bienvenido y gracias por acudir a este llamado donde queremos ilustrar un poco desde las voces de todos los que están viviendo este proceso de la marcha en Colombia. Bienvenido. Hablas una parte en español y tenemos una compañera que aquí hace la traducción en francés. Queremos saber un poco del contexto de la marcha y de toda esta situación exactamente en Medellín. ¿Cuál es tu mirada de estos días y del paro nacional?
Listo, dale. Bueno, no, digamos que todo arrancó más o menos a finales del mes de abril, aunque el país venía desde el 2019 en muchas marchas y movilizaciones. Listo, me dicen si algo cuando paro como para que se traduzca, más o menos como para hacer espacios o algo pronto. Listo, el país venía más o menos desde 2019 en una serie de movilizaciones, pero por el tema del COVID y la pandemia, pues estas habían reducido su cantidad y lo que es la frecuencia con la que se venían realizando. Pero hubo algo que despertó mucho a la ciudadanía para este año, que fue una reforma tributaria que se dio a difundir y a conocer muy ampliamente en el país. Por las consecuencias que traía para la población en general, lo que iba a hacer mucho más difícil la vida de todas las personas en el país. Entonces,
Perdón, el contexto lo hemos trabajado un poco lo que lleva al programa, entonces es como ya estuvimos hablando ahorita con un compañero en Cali, queremos saber cómo ha estado la situación exactamente en Medellín, en qué lugar estés movilizado, desde qué lugar tú estás activo también en todo este proceso del paro en Medellín específicamente.
Ah, bueno, listo. No, en Medellín la cosa digamos que no ha sido en cierta medida tan compleja como en Cali. En Cali es hacia donde estamos dirigiendo los ojos de todas las personas pues en el país, pero bueno, en Medellín también ha sido difícil. Medellín se ha estado movilizando principalmente en un lugar que era conocido como el Parque de los Deseos y se le ha decidido resignificar y renombrar como el Parque de la Resistencia. Es un parque que queda hacia el norte de Medellín, al frente de la Universidad de Antioquia, la universidad pública, una de las universidades públicas también más grandes del país. Y al frente de la Universidad de Antioquia queda este parque, que es un parque abierto donde nos podemos encontrar todas las personas, y desde allí han estado saliendo la mayoría de movilizaciones. Las movilizaciones iniciaron siendo bastante masivas a nivel central, pero ha habido un fenómeno bastante importante también, y es que se ha movilizado muchísimo hacia los barrios.
Ok, dame un segundo, van a traducir hasta ahí donde vamos y ya continuamos. Gracias, Damián.
Merci. Sinon, ça devient un peu long et je note, mais bon. Merci, Damien. Donc, on a Damien de Medellín qui nous parle comment fonctionne la mobilisation à Medellín. Au début, Damien nous réexpliquait encore le contexte de ce qui se passe en ces moments, de comment les choses ne sont pas commencées le 28 avril 2021, mais plutôt en novembre 2019, et c'est une continuation de ce qui a explosé à cette époque-là. Donc, comme on avait déjà parlé du contexte, on demande à Damien comment ça se passe à Medellín, si on compare avec ce qui se passe à Cali, à partir d'où ils sont en train de mobiliser, dans quel secteur de la ville ça se passe. Et donc, Damien nous répond que à Medellín, ça se passe assez bien. Si on compare avec Cali, ça, c'est pas aussi complexe que ce qui arrive à la ville de Cali. Ils ont eu aussi des répressions, mais pas au même niveau ou avec la même force. Donc, ils peuvent compter avec une mobilisation un peu moins cinglante. Et il nous raconte aussi qu'ils se réunissent principalement dans un parc public qui s'appelle El Parque de los Deseos, qui est juste à côté de l'université publique, la deuxième université publique la plus grande du pays, qui s'appelle l'Universidad de Antioquia, qui est d'ailleurs mon université. Et je suis très fière de savoir que ça continue, ces mouvements étudiants qui a commencé depuis longtemps et duquel je faisais partie. Et ensuite, c'est un espace qui a été créé par la mairie de Medellín, qui a été réaménagé pour les gens du quartier et pour les gens qui étaient à côté, tous les étudiants et les quartiers aux alentours, et qui s'appelait Parque Los Deseos. Et ensuite, le mouvement aujourd'hui, il veut le revendiquer et plutôt changer le nom du parc comme El Parque de la Resistencia, le parc de la résistance au lieu du parc des souhaits, parce que c'était le nom original, Parque Los Deseos. Alors, Damien nous disait que depuis le début, la mobilisation était très, très centralisée autour de cette secteur de la ville. Mais au fil de l'avancement de la mobilisation et tout ça, là, ça commence à partir un peu partout dans les quartiers de la ville et ça commence à se multiplier. Et donc, on commence à voir des mouvements qui sont un peu dans des autres zones de la ville et non seulement dans cet espace public.
Des réactions dans les studios?
Moi, la dernière chose que j'aimerais dire aussi, c'est que je veux envoyer un message à tout le peuple colombien, à tous nos concitoyens qui sont là avec vous, à Oscar, à Damien qui viennent de parler, qui sont avec nous. Merci pour cette intervention et merci pour montrer ce qui est en train de se passer en Colombie. Et aussi pour vous dire que nous, les expatriés, on est avec vous. On vous soutient de la façon qu'on peut et j'espère aussi que cette situation ça va changer bientôt. Et avant de finir de mon côté, j'aimerais aussi parler un peu de la corruption, que j'avais pas arrivé à finir mon idée. ce problème de la corruption qui est présent dans notre pays et qui ne nous laisse pas avancer, c'est un des principaux, je dirais que c'est vraiment la pandémie qu'on a en Colombie et que malheureusement, c'est la raison pour laquelle le peuple il s'est levé contre cette réforme fiscale parce qu'on ne sait pas et on ne sait jamais où ils vont finir cet argent.
Très bien, Santiago. On a quelqu'un en ligne. On continue, Laura.
Listo. Entonces, pues se ha deseado efectivamente pues ese fenómeno donde las movilizaciones han transcurrido también desde los barrios. Eso ha hecho también mucho que se vea el apoyo y que se vea en cierta medida que de casi el general de la población se está de acuerdo con lo que está sucediendo, con los reclamos legítimos de quienes estamos marchando. Solo que en Medellín hay condiciones bastante complejas. También que dificultan un poco el tema de la movilización social. Uno de estos aspectos es algo que se ha conocido y es que Medellín y Antioquia fue, por decirlo de alguna manera, uno de los lugares donde surgió el paramilitarismo, que era un fenómeno donde población armada pues era quienes enfrentaban como el pensamiento crítico o las guerrillas o muchos otros factores así similares, y eso se ha vivido también en la movilización.
También igualmente para poder como cerrar contigo en Medellín, el tema en cuanto a comunicación, no sé cómo estará, digamos, con Cali está complejo también, de que no hay que las comunicaciones están restringidas, que hay mucha represión, cuentas bloqueadas, redes sociales, hablando del mismo país y de, pues, claro, no de ciudades diferentes también que están como en procesos, eso cómo está en Medellín, el tema de la represión también a la comunicación y la represión en las calles, en las protestas, cómo ha sido las acciones.
Listo, eso es muy importante. A nivel de la censura, en el país lo estamos viviendo de manera más o menos generalizada, es decir, a Cali lo están incomunicando de una manera muy fuerte, pero las personas ahorita se nos está dificultando postear lo que está sucediendo, las publicaciones están siendo bajadas, los perfiles están siendo bloqueados en las distintas redes, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces no se está pudiendo comunicar ni al país interno ni hacia el exterior lo que de verdad está sucediendo. Eso es algo que es bastante preocupante porque efectivamente estamos siendo bloqueados y censurados. Además la fuerza pública está impidiendo que se grabe, que se tome fotos a periodistas, tanto nacionales como internacionales que han venido a cubrir las movilizaciones, han sido golpeados y se les han quitado y se les han dañado los equipos con los que se han estado cubriendo las movilizaciones. Eso es algo pues absolutamente grave, porque en el momento en el que no se pueda mostrar lo que está sucediendo, ha sido también en cierta medida darle luz verde a la fuerza pública para que pase lo que quiera, por decirlo de alguna manera.
Ok, vamos a traducir esa parte para que... Gracias, Emil.
Alors, on parlait rapidement de comment à Medellín la situation est complexe aussi, un peu, peut-être un peu moins qu'à Cali, vu la réponse de cette nouvelle manifestation. Mais Damien nous disait que à Medellín c'est complexe justement parce que Medellín et Antioquia, qui est la région, la grande région dans laquelle cette ville se trouve, a toujours été le centre ou l'épicentre, en fait, le mouvement paramilitaire qui a attaqué notre pays depuis des années et des décennies, on va dire, il est né à Medellín. Et donc, en ce moment, c'est ça qui génère la complexité. Il y a les gens qui se mobilisent, qui commencent à se mobiliser dans les quartiers, mais toujours avec cette peur d'être tué, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et c'est une des régions où la répression policière a toujours été accompagnée par des mouvements paramilitaires qui sont encore vivants et qui sont encore dans le parage, même s'ils ont changé de nom ou de façon de d'actionner, mais ils existent encore. Donc c'est ça qu'il dit, c'est la préoccupation. Et ensuite, Laura, elle demande comment ça se passe côté communication, comme on l'avait constaté avec Yali. Est-ce qu'il y a une liberté de communication? Est-ce qu'il y a une liberté d'expression? Est-ce que les gens peuvent partager tout ce qui se passe facilement ou pas? Donc Damien nous répond qu'en effet, non, c'est un peu comme Akali. Même si aujourd'hui, on ne peut pas parler de coupures d'électricité ou d'Internet dans certains quartiers comme Akali, ce qui se passe, c'est que leurs réseaux sociaux sont en train de bloquer plusieurs publications de gens. Les gens constatent que quand ils essayent de publier des choses qui se passent dans leur live, soit dans le média comme Facebook ou Instagram, ils se voient bloqués. Ils se voient bloqués systématiquement par le système et ils ne savent pas pourquoi. Et il y a aussi la répression ou l'autre façon d'empêcher ou de censurer qui est actionnée par la police qui tire non seulement aux manifestants mais aussi aux journalistes internationaux, tous ceux qui font la présence sur le terrain avec des caméras. Ils ont déjà frappé des journalistes, ils ont déjà enlevé des caméras à des personnes qui sont des journalistes indépendants et qui vont sur le terrain justement pour faire voir ce qui se passe. Et donc c'est ce qui se passe à Medellín beaucoup, c'est ça, c'est empêcher les gens qui sont munis de caméras et de matériel graphique ou pour faire du matériel graphique, de les empêcher de transmettre en live. Oui, Laura.
Gracias, Lau, por esta traducción. Y Damián, bueno, aquí te hacían un saludo en francés, estaban diciéndote que pues mucho coraje, que muchas gracias también por estar resistiendo también en estos procesos con la gente. Y bueno, un mensaje que quieras dejar a todos los que nos están escuchando sobre lo que está pasando en Colombia, a toda la comunidad internacional que nos está escuchando.
No, pues muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir esto, porque es absolutamente por lo que estamos planteando. Tenemos que tratar, uno, de darlo a conocer a todo el mundo, y dos, nosotros estamos buscando también que haya una intervención internacional en términos de derechos humanos, porque de verdad nos están masacrando. Muchas personas han sido heridas, muchas personas han muerto, y es algo que en cualquier momento puede ser cualquiera de nosotros. No estamos a salvo con lo que está pasando en el país. Entonces, muchas gracias por la invitación, y pues que ojalá todo se vaya dando más a conocer. Nosotros seguimos acá resistiendo, pero la censura y el tema también de la violencia es absolutamente fuerte.
Gracias a ti, y nada, compa, estamos unidos, aquí estamos, regados por todo el mundo y estamos en este proceso de resistencia por lo nuestro, por nuestra tierra. Muchas gracias a ti, un saludo grande.
A ustedes, a todos ustedes, muchas gracias.
No, gracias.
Notre copain Damien, il nous parlait de la violence et de la corruption en Colombie.
En réalité, nous devons rappeler que la Colombie a un problème de violence endémique aujourd'hui, et la complexité de la situation rend encore plus difficile une issue simple de ce conflit, parce que Luisa nous rappelait tout à l'heure, Laura, pardon, nous rappelait tout à l'heure l'existence des paramilitaires dans le nord de la Colombie. Les paramilitaires, pour résumer, c'est des milices qui ont toujours fait un peu ça a été toujours la main droite des narcotrafiquants, mais aussi c'est devenu des milices qui faisaient un peu le sale boulot de l'État, et qui continuent aujourd'hui à exercer en tant que milices indépendantes, mais qui ont été les responsables de 70% des meurtres violents en Colombie, et d'une violence inouïe. Donc à cela s'ajoute toute la tradition des contestations de partis de gauche qui ont essayé de se proposer en tant que parti politique, ils n'ont jamais réussi. À cela s'ajoute aujourd'hui, par exemple, Laura va nous parler de la Minga à Cali actuellement, ce qui se passe avec les mouvements indiens qui sont arrivés sur les territoires à Cali. Mais depuis hier, on a des informations comme quoi il y a des affrontements entre des forces civiles qui attaquent les indigènes. Donc là, c'est plus complexe. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est les riches contre les pauvres. Ça serait trop simpliste. Il y a des gens des classes moyennes, même des classes moyennes basses, qui commencent à dire « mais on ne peut pas aller travailler, tout est bloqué, on ne peut pas aller acheter des aliments, etc. » Donc, et là, apparemment, il y a dans le marché noir à Cali, il y a de moins en moins des armes. En tout cas, les gens, des civils, sont en train de s'armer à Cali. Et ça, ça risque de faire encore un bordel pas possible, parce que si les civils de classe moyenne ou classe moyenne basse commencent à s'armer et commencent à prendre pour cible les manifestants ou les mouvements indigènes, on ne voit pas l'issue. Et on se demande quelle est la stratégie du gouvernement actuel en Colombie, c'est-à-dire laisser les choses, laisser les gens s'affronter, laisser les gens... laisser les choses s'envenimer, parce qu'il n'y a aucune action concrète, c'est-à-dire le gouvernement qui est à la tête du pays, qui devrait aujourd'hui établir des dialogues, aller sur le territoire de Cali, parler avec les gens, négocier, faire des négociations, ne le font pas. C'est-à-dire, c'est quoi la stratégie? C'est laisser la situation s'envenimer et que les gens s'entretuent. C'est clairement ce qu'on a l'impression qui est en train de se passer.
On court vers pousser les gens à un règlement des comptes entre eux. Voilà, créer encore un chaos. De toute façon, le territoire est abonné pour un coup d'État. Et voilà. Il n'y a pas de vraie solution, de vrai dialogue qui propose les présidents. Bon, la situation devient de plus en plus tendue, de réaction encore, il nous reste encore 9 minutes, Laura.
Oui, je voulais juste rajouter le point final de notre connecté à Medellín, Damien, qui nous disait, il nous remerciait pour être là, il nous disait qu'il y avait juste deux choses à nous dire à la fin, deux choses importantes à tenir compte à partir de ce qu'on fait ou pourquoi on fait ce qu'on fait, de communiquer ce qu'on communique. Et une chose importante, c'est de continuer à faire visible cette situation à l'international. Donc ça, c'est super important de continuer à chercher les façons de partager ce qui se passe à l'international, parce que, comme il nous expliquait, il y a beaucoup de censure en ce moment, il y a beaucoup de censure tout court. Et un deuxième point, on nous disait ce serait très important d'avoir une intervention internationale en défense des droits humains, parce que ce qui se passe, c'est vraiment l'attaque des droits humains. On nous tue, on nous massacre, on ne s'arrête pas là et on va avec toute la force envers de citoyens. Et c'est des militaires contre des civils et qui ne sont pas armés et qui meurent assez facilement et assez rapidement. Et donc, tout ce qu'il espère, il disait juste de résister, de continuer la résistance, de ne pas se laisser faire par ce qui se passe et d'espérer que ça va s'améliorer assez rapidement aussi, qu'on va trouver la voie vers un dialogue ou quelque chose de non-violent.
Et on attend que le gouvernement vraiment rentre dans les dialogues et arrête de tuer les manifestants comme ils sont en train de faire en ce moment. Et j'espère pour tous les peuples colombiens et pour toutes nos familles qui sont encore là-bas que cette situation va s'améliorer, parce que de vivre à l'extérieur et de voir jour après jour tout ce qui est en train d'arriver, c'est vraiment triste et c'est vraiment compliqué pour nous d'être loin et d'entendre des nouvelles comme ça tous les jours. J'espère qu'on va partir bientôt dans une bonne situation.
Ouais, c'est l'appel, c'est ça, justement, que le gouvernement il arrête de mentir, de nous dire des mensonges. Et il est là parce que le peuple qui, à ce moment-là, il a cru à lui... il l'a choisi, mais aujourd'hui on peut voir qu'il nous a dit qu'il y a des mensonges. Alors tu as le pouvoir vraiment dans la main, Il faut faire des actions pour aller dans le bon sens.
Violetta, on invite tous les écouteurs de cette émission aussi à partager au maximum les informations que vous avez, les peu d'informations qui circulent sur la Colombie. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux, à parler autour de vous. Nous avons besoin de gagner en visibilité. C'est seulement à travers une pression internationale qu'on va pouvoir mettre la pression sur les gouvernements colombiens et essayer de trouver une issue à cette histoire. Merci beaucoup. Merci Ernesto d'ailleurs pour nous avoir proposé
merci
cet espace.
Merci Radio Galère.
Merci pour l'espace.
Il y a d'autres à dire au studio parce qu'après on se quitte en musique. Je vous remercie à tous d'être là. Laura Cadena, Laura Morales, Violeta Ocampo, Santiago Ruiz, Carlos Ordóñez.
Gracias a la primera línea que está ya en pie.
Resistencia Colombia.
Exactamente, a toda esta gente que está ya verdaderamente metiendo el pecho, como dicen, y vamos a quitarnos con un morso, un tema musical que puede darnos un poquito de coraje. ¡Que viva la música!
¡Que viva!
¡Que viva! ¡Que viva la música!
No quiero guerra más. No.
dos, tres, cuatro.
Buenas noches, todo el mundo.
¡Que viva la música! ¡Let music power! ¡Yeah!
¡Óyeme!
¡Música!
¡Contigo no!